Bon, parlons de vaccination. Les chiffres, et on va penser au Québec d'abord, sont bons. Sauf qu'il y a encore, quand même, beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont déjà prévus et autorisés dans les fameux groupes. Et la folie autour du AstraZeneca à Montréal, disons, a peut-être un peu baissé. On l'a vu la semaine dernière, là, les gens se levaient tôt puis faisaient la queue. Il semble qu'en région, ça va assez bien, mais à Montréal, il y a un peu moins d'intérêt. Et je vous le dis depuis quelques jours, la presse également est allée confirmer des chiffres. Le ministre Dubé, hier, disait aux gens, « Allez, inscrivez-vous, allez au Saint-Rendez-vous, il y a de la place. » Comment dit, il y a comme, peut-être encore pour certaines personnes, une réticence concernant le vaccin d'AstraZeneca. S'ajoute le cas de Johnson & Johnson, où on a aussi eu des problèmes rares, mais quand même, de gens qui ont reçu le vaccin, qui ont eu des problèmes de caillots sanguins. Faisons le point sur ces vaccins, donc, avec Dr. Marc Bertium, qui est directeur du Bureau des sciences médicales à Santé Canada. Dr. Bertium, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, commençons par AstraZeneca. Est-ce que je comprends que la politique à Santé Canada, c'est de dire que c'est un vaccin que l'on peut utiliser pour les gens de 55 ans et plus?
En fait, Santé Canada a fait une analyse rigoureuse là, de l'ensemble des données actuelles sur les effets secondaires liés au vaccin d'AstraZeneca. Puis, on ne fait pas de recommandations spécifiques par rapport à l'âge. C'est qu'on n'a pas une recommandation qui recommande d'utiliser le médicament, le vaccin, pardon, seulement chez les 55 ans et plus. On considère que les bénéfices du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur les risques là, d'attraper la COVID-19 pour l'ensemble des groupes d'âge.
OK. Mais alors, c'est quoi? Ce sont des décisions de santé publique qui font que c'est 55 ans et plus, c'est pas votre recommandation?
C'est-à-dire qu'au Canada, comme dans plusieurs autres pays, il y a l'agence réglementaire qui va évaluer, là, par exemple, le vaccin sur la base des données fournies par les manufacturiers, des essais cliniques et tout ça. Puis si on regarde le risque-bénéfice du vaccin d'AstraZeneca par rapport au risque d'avoir la COVID-19, il y a un clair bénéfice. Puis ensuite, les autorités de santé publique ou des groupes qui sont des comités aviseurs, comme le comité là, Conseil national en immunisation, avisent les départements de santé publique à travers le Canada de comment ils pourraient utiliser l'ensemble des vaccins qui leur sont offerts. Donc, ils font une comparaison. Dans le fond, ils regardent comparativement est-ce qu'il y a un vaccin qu'on pourrait utiliser par rapport à un autre dans le déploiement de la stratégie de vaccination. Puis, ils ont fait une recommandation à l'effet qu'on devrait là, privilégier l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca chez les 55 ans et plus. On observe ça dans d'autres juridictions, d'autres pays aussi. Là. C'est-à-dire que l'agence réglementaire émet une recommandation d'utilisation large, puis certaines autorités de santé publique font des recommandations plus spécifiques.
OK, mais là, Dr. Bertium, quand vous dites on prend nos décisions après avoir analysé, là, puis vous me corrigerez si ce n'est pas ça, là, après avoir analysé les données, les résultats de recherche fournis par la compagnie, c'est ça?
La compagnie et l'ensemble, j'aurais dû préciser l'ensemble des autres sources. Par exemple, si on regarde le vaccin d'AstraZeneca, on a fait, là, c'est pour ça qu'on a fait un point de presse hier, mais on a évalué l'ensemble des données du manufacturier. On leur a demandé de nous présenter là, une stratification des risques par groupe d'âge. On a aussi participé aux réunions de l'Agence européenne du médicament. Puis on a aussi été en lien avec l'agence, dans le fond, du Royaume-Uni sur leurs études sur le vaccin d'AstraZeneca. Donc, on dispose de l'ensemble de ces données-là. Je dois dire que la principale expérience mondiale là, au niveau de l'utilisation d'AstraZeneca nous vient de l'Europe et de la Grande-Bretagne. Si on regarde en Grande-Bretagne, là, il y a eu 20 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca qui ont été administrées. Donc, pratiquement, un petit peu plus la moitié des doses qui ont été administrés au Royaume-Uni, c'est du vaccin d'AstraZeneca. Et puis, je veux dire, on voit les images à la télé, la vie reprend là-bas. Je veux dire, c'est un vaccin qui fonctionne, qui diminue les risques de la COVID-19, puis qui, là-bas, leur permet de tranquillement retourner vers une vie plus normale. Donc, il y a définitivement des bénéfices. Ce vaccin-là a été utilisé là, de façon large au Royaume-Uni. Plus récemment, il y a un groupe là-bas qui a émis une recommandation pour dire que chez les 30 ans et moins, on pourrait utiliser là, un autre vaccin de façon préférentielle dans les secteurs où il y a vraiment un risque très faible de COVID-19. Mais encore là, c'est une recommandation qui est faite par les autorités de santé publique. L'agence réglementaire du Royaume-Uni, elle, maintient une recommandation là, d'utilisation possible du vaccin chez tous les groupes d'âge.
OK, mais là où c'est difficile à suivre pour les gens, c'est que, bon, vous dites, nous, on regarde ça et on considère que le bénéfice l'emporte sur le risque, très bien. puis après ça, vous laissez les comités faire des recommandations pour les groupes d'âge. Mais est-ce que vous lisez les mêmes études que le Danemark qui, de son côté, décide d'abandonner le vaccin? C'est dur pour quelqu'un là, qui regarde ça, qui dit... Le Danemark dit, ben nous autres, on ne le donne plus, puis le Canada dit, ben on continue à le donner.
Oui, puis je comprends que ça peut être un peu, là, quand on regarde ça, difficile là, de trouver dans le fond là, qu'est-ce qui se passe ou de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le Danemark a une population beaucoup plus petite. Ils ont évalué là, que le taux de survenue de ces effets indésirables-là était plus à peu près autour de 1 sur 100 000 sur la base de leurs données à eux, qui ont décidé de mettre l'utilisation du vaccin sur pause. Alors, au Danemark, l'agence réglementaire, l'équivalent de Santé Canada, n'a pas retiré le vaccin du marché. C'est les autorités qui ont décidé de le mettre sur pause pour l'instant. Mais il faut regarder c'est quoi leurs circonstances spécifiques. Je ne sais pas c'est quoi leurs accès aux autres vaccins, par exemple, puis quel est l'état de la pandémie. Mais de ce que j'en sais, là, c'est que la pandémie est mieux contrôlée au Danemark qu'elle l'est au Canada. Donc, ils peuvent prendre momentanément une décision sur la base d'informations puis dire, nous autres, cet effet indésirable rare-là, on préfère pour l'instant, sur la base de ça, recommander de ne pas utiliser le vaccin. Mais comme je vous dis, quand on regarde dans la surveillance des effets indésirables des médicaments, surtout les effets indésirables très rares, quand on a des grandes populations, qu'on obtient les meilleurs taux, les taux les plus précis de survenue des effets indésirables. Puis, si on prend, nous autres, on suit quand même pas mal aux données de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, parce que là, ils ont administré 20 millions de doses, mais ils ont aussi des données électroniques, des dossiers médicaux électroniques très, très bien faits. Donc, ils ont vraiment des bonnes données. Et en plus, la Grande-Bretagne, c'est un des endroits où il y a un des meilleurs systèmes de surveillance des effets indésirables. Donc, les cas sont rapportés. Donc, quand on parle d'un cas de 1 sur 250 000, on pense que c'est un estimé fiable. Puis sur cette base-là, si on regarde, par exemple, le risque d'avoir la COVID-19, donc au Canada, si on regarde en moyenne, là, depuis le début de la pandémie, chez les gens de 50 à 79 ans, il y a 40 personnes par jour qui sont hospitalisées avec la COVID-19 au Canada. Il y a 18 décès par jour en moyenne depuis le début de la pandémie dans les groupes d'âge de 50 à 79 ans de la COVID-19. Donc, on compare un risque très, très rare à une maladie qui est présente. Puis, en fait, au Canada, elle est présente plus que jamais. Donc, les vaccins sont plus importants que jamais pour combattre la pandémie au Canada.
Mais en conclusion, parce que, comme je vous dis, je fais tous les matins des entretiens avec beaucoup d'experts, là. Êtes-vous d'accord pour dire qu'une femme de 40 ans ou de 35 ans préférable qu'elle prenne un autre vaccin que celui d'AstraZeneca?
Bien, c'est-à-dire que si on compare le fait de prendre le vaccin d'AstraZeneca versus pas prendre de vaccin... Puis
non, mais attendre un autre vaccin, c'est-à-dire j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je vais essayer d'avoir le Pfizer ou le Moderna.
Bien, dépendamment de la longueur de cette attente-là, ça peut être préférable. Si c'est un temps très, très court, c'est sûr qu'il y a un effet indésirable très, très rare qui n'est pas rapporté avec le Pfizer ou le Moderna. Okay. Mais si ce temps-là est moindrement long, à ce moment-là, la personne court le risque d'attraper la COVID-19 avec les risques d'hospitalisation, de décès, de caillots sanguins de la COVID-19 et les risques de COVID long. Donc, c'est pas, dépendamment de la longueur de cette période-là, s'il y a une longue période de temps, ça peut être préférable de considérer de prendre le vaccin là, d'AstraZeneca. On parle d'un cas sur 250 000, mais en fait, puis il y a à peu près 25 % de ces cas-là qui sont des cas fatals. Fait à peu près une chance sur 1 million d'avoir un décès lié, par exemple, au vaccin d'AstraZeneca, c'est l'équivalent du risque annuel là, d'être frappé par la foudre au Canada. Okay. Donc, on parle quand même de risques très, très faibles.
Parlez-moi donc, en terminant, de Johnson & Johnson. Il arrive quoi avec ce vaccin-là au Canada?
Bien, ce vaccin-là a été approuvé au Canada. Il n'est pas distribué actuellement. Donc, on a quand même une certaine période de temps pour évaluer ce qui se passe aux États-Unis. Il a été mis sur pause aux États-Unis. Des effets indésirables rares, là, des thromboses avec une diminution des plaquettes, là, a été observé un peu comme des cas similaires au AstraZeneca aux États-Unis, mais dans un taux qui est 4 fois moins grand. Donc, on parle à peu près d'un cas. Ils ont administré presque 7 millions de doses. Ils ont rapporté 6 cas, dont un décès puis un cas qui était quand même encore hospitalisé. Donc, à peu près 1 cas sur 1 million. Donc, c'est des effets indésirables qui pourraient être reliés à une espèce de réaction immunologique très, très rare à certaines parties du vaccin. C'est possible que ça soit quelque chose qui soit observable avec ces deux vaccins-là parce qu'ils ont le même type de structure. C'est ce qu'on appelle des vaccins à vecteur viral. Donc, c'est possible que le virus, qui est un adénovirus, augmente un petit peu le risque de ces réactions-là. Mais encore là, on focus beaucoup sur le risque du vaccin, qui est un risque très, très rare, puis on oublie de regarder, mais c'est quoi le risque d'avoir la COVID-19? C'est quoi le risque d'avoir des complications de la COVID-19?
Mais ça, mais Dr Bertillon, ça, je comprends. Sauf que les citoyens regardent ça, ce sont les pays qui mettent ça en pause. Les Américains nous annoncent, on met ça en pause. Le Danemark nous dit, nous autres, on ne le donne plus à AstraZeneca. Je comprends ce que vous me dites très clairement. Là. Il y a peu de cas, le bénéfice l'emporte. Sauf que les gens qui décident envoient quand même un message sur ces deux vaccins-là.
Bien, je dirais, M. Arcan, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. On focus sur le Danemark, qui est un petit pays en Europe, mais si on regarde l'Agence européenne, là où le médicament a été approuvé de façon centrale, ils n'ont pas recommandé d'interruption d'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. On regarde le Royaume-Uni, où le vaccin est utilisé et va être utilisé encore beaucoup pour les deuxièmes doses. Le pays qui l'a pratiquement le plus utilisé dans le monde, ils n'ont pas mis de pause sur le vaccin d'AstraZeneca. Fait qu'on va chercher dans l'ensemble du tableau un petit peu les points noirs, mais si on regarde de façon générale, le vaccin d'AstraZeneca continue d'être utilisé à grande échelle à travers le monde sans qu'il y ait des recommandations d'en limiter l'utilisation. Le Danemark, c'est une exception plus qu'une représentation de la situation qui se passe dans les autres juridictions. Là.
Non, c'est vrai, mais en même temps, je voyais ce matin que l'Europe pas très convaincue de Johnson & Johnson et veut vraiment, je dirais, s'alimenter ou s'approvisionner plutôt avec du Pfizer. C'est dans les manchettes de ce matin. Mais OK, mais Johnson, est-ce qu'il est, juste pour que je comprenne, il est sur pause au Canada ou il est approuvé puis c'est une question de distribution?
Il est approuvé, c'est une question de distribution, okay. Mais d'ici à ce qu'il soit distribué, on va quand même avoir le temps de compléter une analyse là, dans le fond de l'ensemble des données okay. De ce qui se passe aux États-Unis.
Parfait, merci, Dr. Bertillon.
S'il y a des actions à prendre, on va les prendre. Ça me fait plaisir, M. Arcand.
Bonne journée. Dr. Marc Bertillon est directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada. Maintenant, quand on parle de vaccination, c'est vraiment là aux antipodes. Montréal, il y a des milliers de personnes qui ne sont pas vaccinées encore ou qui n'ont même pas pris de rendez-vous. Et hier, c'était comme la chasse aux patients en disant « Venez, venez, si vous êtes rendez-vous, pas rendez-vous, là, il y a de la place dans beaucoup de centres. » Ailleurs au Québec, ça vaccine peut-être plus serré.